Le dévoilement de Dieu numéro 67. La souveraineté de Dieu dans le salut. Le 2 décembre 2018. Brian Kozurek, pasteur. Un chronique 29.11 à toi, Éternel, Esther la grandeur, et la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui Esther au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Ce matin, je veux continuer notre étude du dévoilement de Dieu. Ça sera le numéro 67 de notre série et le numéro 2 dans notre mini-série concernant la souveraineté de Dieu. Or, dans ce message, Dieu dévoile les frères Branham, dit au paragraphe 190 à 203, que Dieu est Esther souverain dans sa révélation de lui-même. Il se révèle à qui il veut se révéler et à tous les autres. Il cache sa sagesse et sa révélation de lui-même. Comme Paul dit dans Romains 9.15 car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » C'est ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité des saints, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras, « Pourquoi blâme-t-il encore ?» Car qui est-ce ce qui résiste à sa volonté? 20 Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? 21 Le potier n'est-ce stérile pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? 22 Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. 23 Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. 24 Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les pagènes. 25 Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. 26 Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Dans son sermon qui a stercé Melchizedek, dîme 21 février 65 S 51 frère Branham dit, 51 Dieu Esther souverain dans son choix. Le saviez-vous? Dieu Esther souverain. Qui était là-bas pour lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Qui oserait lui dire qu'il dirige mal à qui son affaire? Même la parole elle-même, très souveraine. Même la révélation Esther souveraine. Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même Esther souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, Néhémie sachant pas ce qu'ils font. Dieu Esther souverain dans ses œuvres. L'apôtre Paul dit aussi dans Romains 11.33, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles. » Maintenant, on nous dit dans Jonas 2.9 « Le salut vient de l'Éternel. » Et si, comme nous avons prouvé la semaine dernière que Dieu est souverain par rapport à celui à qui il se révèle, par conséquent, souverain dans sa révélation, alors, il est aussi souverain dans le salut ou en celui qu'il choisit de sauver. Car Job a dit, le salut vient de l'Éternel, et si le salut vient de l'Éternel ou du Seigneur, alors c'est le choix souverain du Seigneur, et de personne d'autre. Et le salut vient de l'Éternel, mais nous découvrons que l'Éternel Néhémie sauve pas tout le monde. Et nous devrions nous poser la question, pourquoi pas? Si effectivement il sauve quelques-uns mais pas tous, et puis si effectivement il sauve quelques-uns, Alors pourquoi pas les autres? Est-ce parce qu'ils sont trop pécheurs et trop dépravés? Non. Car l'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée, 1.15 Esther une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Par conséquent, si Dieu a sauvé le premier des pécheurs, personne n'est mis peut être exclu pour cause de dépravation. Donc, si personne n'est mis peut être sauvé pour cause de dépravation, alors pourquoi Dieu n'est mis sauve pas tous? Écoutez, si vous lisez vos Bibles et n'avez pas ces questions, alors vous n'êtes mis, lisez pas pour connaître la pensée de Dieu, mais vous la lisez comme le manuel d'une église vous indiquant quoi faire et quoi n'est mis pas faire. Mais la Bible est-elle la pensée même de Dieu sous forme écrite? Et pour connaître Dieu, vous devez non seulement savoir ce qu'il fait et n'est mis fait pas, mais vous devez aussi savoir pourquoi il fait et pourquoi il n'est mis fait pas certaines choses. Or, j'enseigne depuis plus de 30 ans que la doxa de Dieu sont les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Mais si vous les connaissez que par la loi, alors vous n'êtes mis, savez toujours pas le pourquoi et la raison. Autrement dit, à moins d'avoir la pensée de Dieu, vous n'êtes mis comprendrez pas totalement ses motifs et objectifs. Alors, à quoi ça sert de connaître la doctrine si la vie de cette doctrine n'est vit pas d'elle-même dans votre vie? Je pense que nous allons prendre un nouveau tournant ce matin. Je sens que ça vient. D'accord? Donc, nous parlons de connaître Dieu. Et vous pouvez connaître à son sujet, mais cela n'est signifie pas que vous le connaissez. Mais le connaître, c'est la vie. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Par conséquent, le connaître signifie bien plus que de connaître à son sujet. Ça signifie que vous pensez comme il pense, et vos motifs et objectifs sont les mêmes que les siens. Ainsi, en comprenant la souveraineté de Dieu dans la révélation, nous devons faire ce pas supplémentaire et pas seulement savoir que Dieu est souverain dans sa révélation et pas seulement savoir qu'il choisit de se révéler seulement à ceux qu'il choisit de se révéler, mais nous devons comprendre pourquoi il le fait, sinon nous n'y comprenons pas vraiment et pleinement pourquoi Dieu est souverain dans sa révélation. Et la même chose peut être dite pour ce que nous lisons dans Jonas 2.9 le salut vient de l'Éternel. Et comprendre la souveraineté de Dieu dans le salut signifie comprendre le pourquoi et la cause du choix de Dieu dans le salut. Vous Néhémie pouvez pas dire que Dieu est souverain en celui qu'il sauve parce que certains ont un cœur excessivement de pierre pour être conquis? Non. Ça serait une fausse conclusion. Parce que ça ferait de l'état du cœur de la personne une condition à laquelle Dieu doit tenir compte afin de sauver et ainsi Dieu Néhémie sera plus souverain et l'état de leur cœur sera la condition souveraine pour le salut. Autrement dit, l'état du cœur serait la condition méritoire en foi de quoi ils peuvent être sauvés. Cependant, si Dieu est souverain dans le salut, ça n'a rien à voir avec l'état du cœur de la personne avant qu'il n'ait mis soit sauvé. Par conséquent, pour voir que Dieu est souverain dans le salut, vous devez ôter chaque chose, sans exception, de l'état du cœur à l'exception de la volonté et du dessein de Dieu. Car peu importe combien le cœur est de pierre, Dieu a promis dans Ézéchiel 11.19 j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Et nous voyons qu'il est celui qui doit faire cela pour la personne de son choix parce que la Bible nous dit dans Proverbe 16.25 elle voit, pareil droit un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Et même si un homme peut choisir de faire ce qui lui semble juste, cependant, cela conduira à la mort, à moins que Dieu soit en lui produisant le vouloir et le faire comme nous lisons dans Philippiens 2.13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Psaume 37.23 les pas de l'homme, bons sont ordonnés par le Seigneur, et il prend plaisir à sa voix. Version du roi Jacques, Dans Proverbe 16.9 nous lisons, le cœur de l'homme médite sa voie. Mais c'est à l'Éternel qui dirige ses pas. Ici, nous constatons que même si un homme peut méditer et même planifier sa voie, Dieu a pourtant droit au dernier mot et dirigera les pas de cet homme. Jonas en était un exemple classique. Le Seigneur lui a dit de faire telle ou telle chose, et quand Jonas avait ce qu'il pensait être un meilleur plan, Dieu a simplement pris le contrôle de la situation et a produit exactement ce qu'il avait l'intention de produire. Jonas n'avait pas le choix. Du moins son choix Néhémie signifiait rien à côté de ce que Dieu voulait faire. Et tout au long de l'histoire, de nombreux hommes de Dieu ont eu des problèmes avec Dieu, parce que quand Dieu leur a dit de faire une certaine chose, ils ont fait quelque chose d'autre à la place. Comme quand Dieu a dit à Moïse de parler au rocher et Moïse a frappé le rocher avec sa verge de jugement. Cela a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise avec les gens de son âge. Ainsi, lorsque nous examinons une quelconque raison pour laquelle une personne est sauvée ou pas, en dehors du propre dessein et plan de Dieu, nous devons comprendre que si Dieu est souverain dans le salut, alors il n'y a rien de plus influent que le dessein et le plan de Dieu pour cette personne. Par conséquent, l'entêtement de la personne n'a rien à voir avec le choix souverain de Dieu dans le salut, pas plus que la volonté ou le désir d'être sauvé d'une personne. Par conséquent, il n'y a pas de condition dans une personne que Dieu veut sauver qui puisse empêcher Dieu de sauver cette personne. Regardez simplement votre propre vie. N'y a-t-il pas eu un moment où vous avez marché selon le conseil des méchants? Vous vous êtes arrêté sur la voie des pécheurs? Et vous êtes assis en compagnie des moqueurs? Et avec eux, vous avez dit, nous n'y voulons pas que cet homme règne sur nous. Luc 19.14. N'y a-t-il jamais eu temps où Néhémie voulait pas venir à lui pour avoir la vie? Jean 5.40. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 3.23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je suis désolé pour vous, les propres justes, qui pensent, j'ai toujours voulu suivre Christ, parce que vos propres péchés ont montré que vous n'aimiez le vouliez pas fait. Votre propre égocentrisme a montré que vous n'aimiez le vouliez pas et maintenant, en plus de cela, vous avérez être des menteurs. N'y a-t-il jamais eu un temps où vous avez mêlé votre voix avec ceux qui ont dit à Dieu, retire-toi de nous, nous n'y voulons pas connaître tes voix. Vous pourriez dire, oh non, pas moi, mais cela signifie simplement que vous êtes menteur en plus de tout cela. Parce que la parole de Dieu a dit, car tous ont péché, tous n'ont pas cru et sont privés de la gloire, la doxa, de Dieu. Et tous ont dit dans leur cœur à un moment, qu'est-ce que le Tout-Puissant? Pour que nous le servions? Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? Job 21.14-15. Et je sais vous l'avez dit parce que j'ai entendu certains d'entre vous dire, j'ai prié et prié pour cette certaine chose et quel profit cela a-t-il été de prier quand je n'obtiens pas ce pourquoi j'ai prié? Ainsi, vous êtes tout autant coupable que le pécheur. Et avec un visage honteux. Vous devez reconnaître que vous avez effectivement eu ces sentiments. Mais nous ne devons pas vivre dans le passé, ni demeurer dans le passé. Comme Paul dit dans Philippiens 3.13 frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. 14 et je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, que cesse-t-il le passé, pour que tout soit changé maintenant? Qu'est-ce qui vous a amené d'une autosuffisance hautaine à une attitude humble et suppliante? Qu'est-ce arrivé que vous soyez changé de celui qui était en inimitié avec Dieu à celui qui est en paix avec lui? Qu'est-ce arrivé que vous soyez changé de celui qui était sans loi à celui qui est soumis à Dieu? Qu'est-ce qui vous a fait passer de la haine des frères à l'amour des frères? Et en tant qu'une personne née du Saint-Esprit, Vous répondez volontiers. Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis comme l'apôtre Paul, dit dans 1 Corinthiens 15.10. Alors Néhémie, voyez-vous pas que cela n'est pas dû à un manque de puissance en Dieu, ni à son refus de contraindre l'homme, que d'autres rebelles Néhémie sont pas aussi sauvés? Si Dieu fut capable de soumettre votre volonté et de gagner votre cœur, et cela sans interférer avec votre responsabilité morale, alors n'est-il pas capable de faire de même pour tous les autres? Assurément. Alors combien il est incohérent, illogique, stupide de votre part, de chercher à expliquer la voie actuelle des méchants et dans leur destin ultime, d'argumenter que Dieu est incapable de les sauver, parce qu'ils ne le laisseront pas les sauver. Vous dites, mais le moment est venu où j'étais disposé à recevoir Christ comme mon sauveur? Maintenant, c'est peut-être vrai, mais vous devez aussi admettre que c'est le Seigneur qui vous a fait vouloir. Comme nous le voyons dans Psaume 110.3, ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Et comme nous voyons dans Philippiens 2.13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Alors pourquoi Néhémie donne-t-il pas la volonté à tous les pécheurs? Pourquoi? Pour le simple fait qu'il est souverain et fait ce qu'il veut. Par conséquent, revenons à notre question d'ouverture. Pourquoi est-ce que tous Néhémie sont pas sauvés? Surtout tous ceux qui entendent l'évangile? Répondez-vous encore, parce que la majorité refuse de croire? Eh bien, c'est peut-être vrai, mais ce n'est qu'une vérité partielle. C'est la vérité du point de vue humain. Mais il y a aussi un point de vue divin. Et le point de vue divin, de la vérité doit être souligné sinon nous volons à Dieu de sa gloire. Les non-sauvés sont perdus parce qu'ils refusent de croire, les autres sont sauvés parce qu'ils croient. Mais pourquoi? Ces autres croient-ils? Qu'est-ce qui les pousse à mettre leur confiance en Christ? Est-ce parce qu'ils sont plus intelligents que les autres? Et plus rapides que les autres à discerner leurs besoins de salut? Pas selon Dieu qui dit dans 1 Corinthiens 4.7 car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu n'aimais l'avais pas reçu? C'est Dieu lui-même qui distingue l'élu de celui qui n'aimait l'Esther pas. Car il nous dit dans 1 Jean 5.20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. La foi est le don de Dieu. Cependant la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 3.2, car tous n'ont pas la foi. Par conséquent, nous voyons que Dieu n'accorde pas ce don à tous. À qui accorde-t-il cette faveur salvatrice? Et nous répondons, à ses élus. Car nous lisons dans Actes 13.48, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Par conséquent, quand nous lisons dans Tite 1.1 à propos de la foi des élus de Dieu, nous devons comprendre que l'élection de Dieu est souveraine. Il choisit comme nous avons lu ce matin dans Romains 9. Romains 9.15 car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » C'est ainsi donc, cela n'est dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais Dieu fait-il preuve de partialité dans la distribution de sa faveur? Dieu fait-il exception de personne? Nous savons que non, pas parce qu'il n'est aimé, peut pas faire exception de personne parce qu'il l'a dit. Deutéronome 16.19 Tu n'es aimé porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu n'es aimé recevras point de présent. Car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Lévitique 19.15 Tu n'es aimé commettras point d'iniquité dans tes jugements, Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu n'y favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Jacques 2.9 Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Éphésiens 6.9 Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre Esther dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Romains 2.11 Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Actes 10.34 Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu n'y fait point acception de personne. Alors comment concilier le fait qu'il n'ait mis fait acception de personne avec le fait qu'il élit certains et pas d'autres? N'en a-t-il pas le droit? Y en a-t-il encore qui murmurent contre le brave homme de la maison? Alors ses propres mots sont des réponses suffisantes. Néhémie, m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Matthieu 20.15 Dieu est souverain dans l'octroi de ses dons, à la fois dans le domaine naturel et le domaine spirituel. Voilà pour une déclaration générale, et maintenant pour particulariser. L'apôtre Paul répond à cette question, pour nous dans la dernière partie de Romains 9 en commençant au verset 17 car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? 20 Ô homme, toi plutôt, qui as-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? 21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? 22 Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? 23 Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Autrement dit, que dire si Dieu a fait de certains des vases de colère afin de faire valoir les vases qu'il a ordonnés à sa gloire? Et que dire s'il a fait les ténèbres de la nuit pour apporter la louange à la lumière du jour? Et que dire s'il a fait la tempête pour purifier l'air et ressourcer la terre? Et que dire si Dieu a fait de certains des vases de déshonneur pour que ces vases d'honneur fassent briller sa justice et sa doxa? Par conséquent, en considérant la souveraineté de Dieu dans le salut, nous devons voir Romains 9 qui, plus catégoriquement de toutes les autres écritures, affirme la souveraineté absolue de Dieu en relation avec sa détermination du destin de ses créatures. Paul dit de Dieu dans Romains 9.21-23, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ces versets représentent l'humanité déchue comme aussi inerte et impuissante qu'une masse d'argile sans vie. Cette preuve biblique prouve qu'il n'y a aucune différence en eux-mêmes, entre les élus et ceux qui n'aimés le sont pas, ils sont de l'argile. Remarquez que Paul a dit, du même morceau, ce qui s'accorde avec Éphésiens 2.3 où on nous dit que nous étions tous par nature des enfants de colère. Cela nous enseigne que le destin ultime de chaque individu est décidé par la volonté de Dieu, et béni soit-il que tel soit le cas, car si cela est-il laissé à nos volontés, notre destination ultime à nous tous serait le lac de feu. Romains 9 déclare que Dieu lui-même fait la différence dans les destinations respectives auxquelles il assigne ses créatures. Car un vase Esther fait un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. D'autres sont des vases de colère formés pour la perdition. D'autres encore sont des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaîtrons volontiers qu'il est Esther très humiliant pour le cœur orgueilleux de quiconque de voir toute l'humanité entre les mains de Dieu comme l'argile Esther dans la main du potier. Et pourtant c'est Esther précisément ainsi que la Bible représente le cas de toute l'humanité. Dans cet âge-là, odyssée de l'inventardise humaine, de l'orgueil intellectuel et de la déification de l'homme, nous devons reconnaître que le potier forme ses vases pour lui-même. Point. Que les hommes luttent avec leur créateur comme ils veulent, mais le fait demeure qu'ils n'aient mis sont rien de plus que de l'argile entre les mains du potier céleste. Et alors que nous savons que Dieu s'occupera de manière juste de ses créatures, que celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Néanmoins, Dieu forme ses vases pour son propre dessein et selon son propre plaisir. Par conséquent, Dieu revendique le droit incontestable de faire ce qu'il veut de sa propre création. Non seulement Dieu a-t-il le droit de faire ce qu'il veut avec les créatures formées de ses mains, mais il exerce ce droit, et nulle part cela n'est Esther vu plus clairement que dans sa grâce prédestinée. Avant la fondation du monde, Dieu a fait un choix, une sélection, une élection. Avant que son œil omniscient saisisse toute la race d'Adam, et il a distingué un peuple et les a prédestinés à être ses enfants d'adoption, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a destinés à la vie éternelle. De nombreux versets énoncent cette vérité bénie. Nous allons nous intéresser à ces versets. Acte 13.48 et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Chaque outil intellectuel humain à la disposition de l'homme a été utilisé pour atténuer la netteté de ce verset et pour expliquer la signification évidente de ces mots. Mais ces dilutions intellectuelles ont été faites en vain. Même si rien n'est mis pour réconcilier ce passage et d'autres passages similaires avec la pensée de l'homme naturel ou animal. Car admettons-le, l'homme animal n'émi comprend pas les choses de Dieu, car il lui est impossible de les comprendre parce qu'il n'est émi sont pas nés de l'esprit. Et il faut l'esprit de Dieu pour connaître et comprendre les choses de Dieu. Alors quand la Bible dit, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Nous en apprenons quatre choses. Premièrement, que croire Esther la conséquence et non la cause du décret de Dieu. Deuxièmement, qu'un nombre limité seulement sont destinés à la vie éternelle, car si tous les hommes, sans exception, ont donc été destinés par Dieu, alors les mots tous sont dénués de sens. Troisièmement, que cette destination de Dieu n'est mis vise pas de simples privilèges extérieurs mais la vie éternelle, non pas le service mais le salut lui-même. Quatrièmement, que chacun de tous ceux, et pas en moins, et pas en plus, sont ainsi destinés par Dieu à la vie éternelle et tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront certainement. Spurgeon a commenté cela lorsqu'il a déclaré, des tentatives ont été faites pour prouver que ces mots n'enseignent pas la prédestination, mais ces tentatives font clairement violence au langage tentative auquel je n'ai mis, perdrai pas de temps à répondre. Quand j'ai lu, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, et je n'ai mis déformerai pas le texte, mais je glorifierai la grâce de Dieu en attribuant à cette grâce la foi de chaque homme. N'est-ce pas Dieu qui donne la disposition à croire? Si les hommes sont disposés à voir la vie éternelle, n'est-ce pas lui, Dieu, dans tous les cas, qui les dispose? Est-ce mal à qui que Dieu donne la grâce? Si Esther juste pour lui de la donner, est-ce mal à qui pour lui d'avoir l'intention de la donner? Voulez-vous qu'il le donne par accident? Si Esther juste pour lui d'avoir l'intention de donner la grâce aujourd'hui, Il était juste pour lui d'en avoir l'intention avant aujourd'hui, et, puisqu'il n'y change pas, depuis l'éternité. Remarquez que dans Romains 11.5-6 l'apôtre Paul dit, de même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est-à-dire par grâce, ce n'est-à-dire plus par les œuvres, autrement la grâce n'est-à-dire plus une grâce. Et si c'est-à-dire par les œuvres, ce n'est-à-dire plus une grâce, autrement l'œuvre n'est-à-dire plus une œuvre. Les mots de même aussi au début de cette citation nous renvoient au verset précédent où on nous dit, « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Notez en particulier le mot « réservé ». Au temps d'Élie, il y avait 7000 hommes, une petite minorité, qui ont été divinement préservés de l'idolâtrie et amenés à la connaissance du vrai Dieu. Cette conservation et l'illumination n'étaient pas dues à quoi que ce soit en eux-mêmes, mais uniquement par l'influence spéciale et les moyens de Dieu. C'est grâce. À quel point ces individus devaient-ils être préférés pour être ainsi réservés par Dieu? Ainsi l'apôtre Paul dit, tout comme il y avait un reste dans les jours des jours réservés par Dieu, de même en est-il dans cette dispensation présente. Un reste, selon l'élection de la grâce. Ici, la cause de l'élection remonte à sa source. La base sur laquelle Dieu a élu ce reste n'était pas à la fois prévue ne. Car un choix fondé sur la prévision des bonnes œuvres est tout aussi véritablement fait en raison des œuvres comme peut l'être n'importe quel choix. Et dans un tel cas, le choix n'émis serait pas la grâce. Car l'apôtre dit, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Ce qui signifie que la grâce et les œuvres sont opposées, elles n'ont rien en commun, et Néhémie se mélangeront pas plus que l'huile et l'eau. Ainsi, l'idée de bien inhérent prévu dans ses élus, ou de tout ce qui est méritoire accompli par eux, est rigidement exclu. Un reste, selon l'élection de la grâce, signifie un choix inconditionnel résultant de la faveur souveraine de Dieu, autrement dit, c'est absolument une élection de grâce. Dans Corinthiens 26-29 Paul développe davantage cette élection par la grâce quand il dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui n'émis sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul cher n'émis se glorifie devant Dieu. » Trois fois dans ce passage, il fait référence au choix de Dieu, et le choix suppose nécessairement une sélection, et cela suppose une double sélection, le fait d'en prendre certains et le fait d'en laisser d'autres. Celui qui choisit, c'est ce qu'est Dieu lui-même, comme le Seigneur Jésus a dit aux apôtres dans Jean 15.16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Le nombre choisi est strictement défini, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, etc. Ce qui s'accorde avec Matthieu 2.0.16. Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ainsi, non seulement Dieu choisit mais remarquez les objets de son choix. Ce dont on parle ci-dessus comme les élus de Dieu, sont les choses faibles du monde, les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Donc, tout comme nous l'avons dit au début de ce sermon, mais pourquoi? Pourquoi Dieu choisit-il les choses faibles, les choses viles, les choses méprisées? Et la réponse, pour démontrer et magnifier sa grâce. Les voies de Dieu ainsi que ses pensées sont totalement en contradiction avec celles de l'homme. La pensée charnelle pourrait supposer que cette sélection aurait dû être faite dans les rangs des opulents et des influents, des aimables et des cultivés, de sorte que le christianisme aurait pu gagner l'approbation et les applaudissements du monde par sa gloire apparente et charnelle. Ah ! Mais ce n'est certes pas ainsi que Dieu pense. Rappelez-vous, nous avons dit, vous Néhémie le connaissez pas à moins que vous Néhémie sachiez pourquoi il fait ce qu'il fait. Vous Néhémie pouvez pas dire avoir sa doxa à moins que vous Néhémie pensiez comme il le pense. Parce que ce n'est pas seulement ses opinions, mais aussi ses valeurs, les choses qu'il valorise, puis aussi ses jugements, les choses qu'il dit, et pourquoi il les dit. Et il dit dans Luc 16.15 ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ainsi, Dieu choisit les choses viles. Il l'a fait dans l'Ancien Testament. La nation qu'il a désignée pour être le dépositaire de ses saints oracles et le canal par lequel la semence promise devait venir n'étaient pas les Égyptiens, les imposants babyloniens, ni les Grecs antiques hautement civilisés et cultivés. Non, ce peuple sur lequel Jéhovah a placé son amour et considéré comme la prunelle de ses yeux, étaient les Hébreux méprisés et nomades. Ce sont les personnes auxquelles il a envoyé ses prophètes avec sa parole. Et il en était de même lorsque notre Seigneur habitait dans son Fils parmi les hommes. Ce qu'il a pris dans une intimité privilégiée avec lui-même et commissionné d'aller comme ses ambassadeurs étaient, pour la plupart, des pécheurs illettrés. Et il en a toujours été ainsi. Et il en est ainsi aujourd'hui, au taux de croissance actuel. Il n'y faudra pas longtemps avant qu'il n'ait mis se manifeste que le Seigneur en a plus parmi les noirs méprisés d'Afrique, qu'il n'en a parmi les cultivés des U, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Et le but même du choix de Dieu, la raison même de la sélection qu'il a faite Esther, afin que nul, cher Néhémie se glorifie dans sa présence. Il n'y a rien du tout dans les objets de son choix qui devrait leur octroyer le droit à ses faveurs spéciales. Par conséquent, tous les éloges seront librement attribués à la très grande richesse de sa grâce infinie. Paul nous révèle tout le motif et le dessein et le plan de Dieu dans Éphésiens 1.3-5.11. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, en dehors de Christ, il n'y a pas de bénédiction. En lui, tira même, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Devant lui signifie dans sa présence, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui, Dieu, qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ici encore, on nous dit à quel moment, si on peut parler de temps, Dieu a fait le choix de ceux qui devaient être ses enfants par Jésus-Christ. Ce n'était pas après qu'Adam soit tombé et a plongé sa race dans le péché et la misère. Mais bien avant qu'Adam n'ait mis voie la lumière, même avant la fondation du monde, que Dieu nous a choisis en Christ. Ici aussi, nous apprenons le dessein que Dieu avait avant Adam en rapport avec ses propres élus, c'était qu'ils soient saints et irrépréhensibles devant lui, c'était pour être ses enfants d'adoption, c'était qu'ils obtiennent un héritage. Ici aussi, nous découvrons le motif qui l'a incité. C'était nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Cette déclaration réfute l'accusation erronée du fait que Dieu décide de notre destinée avant notre naissance est-il tyrannique et injuste. Mais nous voyons que c'était dans l'amour qu'il nous a choisis. Et enfin, nous sommes informés ici qu'il n'a consulté personne, ce qui démontre sa souveraineté en agissant ainsi et montre que nous sommes prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté, démontrant ainsi son propre choix souverain. L'apôtre Paul dit aussi dans 2 Thessaloniciens 2.13 pour nous, Frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Il y a trois choses ici qui méritent une attention particulière. Premièrement, le fait qu'on nous dit expressément que les élus de Dieu sont choisis pour le salut. Le langage Néhémie saurait être plus explicite. Comme ces mots éliminent sommairement l'esprit intellectuel, qui ferait que l'élection Néhémie se réfère à rien de plus qu'à des privilèges extérieurs ou à un rang dans le service. C'est pour le salut lui-même que Dieu nous a choisis. Deuxièmement, nous sommes avertis ici que l'élection pour le salut Néhémie fait pas abstraction de l'utilisation de moyens appropriés, le salut passe par la sanctification de l'esprit et la croyance dans la vérité. Il n'est pas vrai que comme Dieu en a choisi certains pour le salut, qu'ils seraient sauvés bon gré mal acquis gré, qu'ils y croient ou pas. Nulle part la Bible Néhémie présente cette pensée erronée. Le même Dieu qui nous a prédestinés à un dessein, a également désigné les moyens par lesquels il atteindrait ce dessein. Le même Dieu qui nous a choisis pour le salut, a décrété que son dessein doit se réaliser par l'œuvre de l'Esprit et la croyance en la vérité. Troisièmement, que Dieu nous a choisis pour le salut est une cause profonde de louange fervente. Note avec quelle force l'apôtre l'exprime, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, etc. Au lieu de se rétracter avec horreur de la doctrine de la prédestination, le croyant, quand il voit cette vérité bénie telle qu'elle se dévoile dans la parole, découvre un terrain pour exprimer gratitude et action de grâce telle que rien d'autre n'en offre l'occasion, sauf le don indicible du Rédempteur lui-même. Pour terminer, nous voyons l'apôtre Paul nous dire dans 2 Timothée 1.9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, comme le langage du Saint-Esprit est clair et précis. Il n'y a que l'homme qui, par ses paroles, obscurcit les desseins. Par conséquent, il est impossible de déclarer le cas plus clairement ou plus fortement que Paul Néhémie l'a déclaré ici. Notre salut est non à cause de nos œuvres, c'est-à-dire à dire que ce n'est dû à rien en nous, ni à la récompense de quoi que ce soit venant de nous. Au lieu de cela, c'est le résultat du dessein et de la grâce de Dieu, et cette grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant que le monde ait commencé. C'est par grâce que nous sommes sauvés, et dans le dessein de Dieu, cette grâce nous a été accordée non seulement avant que nous ayons vu la lumière, non seulement avant la chute d'Adam, mais même avant ce lointain commencement de Genèse 1.1. Et c'est là que réside notre consolation inattaquable en tant que peuple de Dieu. Si son choix vient de l'éternité, il durera jusqu'à l'éternité. Rien n'émis peut survivre à l'éternité sauf ce qui est revenu de l'éternité, et ce qui est revenu ainsi, sera ainsi. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, mars 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.